Alors, nous avons beaucoup entendu parler lors de la table ronde précédente de partenariat, d'ouverture, de droit commun, de notions de dispositifs de coopération. Et on a beaucoup senti la nécessité, effectivement, de développer des réponses spécifiques et en même temps un risque de voir cette spécificité diluée un petit peu dans les différents dispositifs, dans la rencontre avec d'autres partenaires. Donc cette question, elle est, me semble-t-il, une question réelle. Et j'ai demandé au professeur Robert Lafort de venir nous parler effectivement de cette question au travers d'un intitulé, je dirais, d'une conférence qu'on a baptisée « La spécificité à l'épreuve de l'inclusion ». Alors je suis très heureux d'accueillir Robert Lafort parmi nous. Ceux qui ne le connaîtraient pas, ils sont rares, me semble-t-il. Il est professeur agrégé de droit public. Il est responsable d'un master à Sciences Po Bordeaux, gouvernement des institutions et des politiques sociales. Et c'est surtout un personnage, je dirais un homme, très apprécié par notre secteur, par la lucidité de ses analyses et par ses engagements. Donc je vous demande de l'applaudir là, et puis bien entendu par la suite, une petite intervention d'une demi-heure, et là où vous aurez aussi la parole pendant un quart d'heure si vous souhaitez lui poser des questions. Merci Robert d'être parmi nous ce soir. Tu es le bienvenu.
Voilà, bonsoir et merci de m'avoir applaudi en commençant, comme ça j'aurais au moins la satisfaction d'avoir été applaudi parce qu'à la fin, tout reste à faire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité à vos travaux et donc merci à la FISAF et merci à son directeur général, Maurice Beccari. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui et d'autant plus que ayant entendu les travaux de cet après-midi, j'ai naturellement noté beaucoup de convergences, d'interrogations et de réflexions qui me sont très utiles. Donc on m'a demandé de parler c'est l'intitulé même de mes propos, la spécificité à l'épreuve de l'inclusion. Voilà. Alors effectivement, comme il l'a été dit, le sujet consiste, de mon point de vue, à manifester à la fois, mais ça c'est une évidence, on en a parlé tout l'après-midi, cette transformation assez profonde, à mettre en évidence et à réfléchir à cette transformation assez profonde de l'action sociale, qui au fond est passée d'un modèle que moi j'appelle catégoriel, qui s'est construit dans des logiques qui consistaient d'ailleurs, pour l'essentiel, à soustraire aux institutions du droit commun les personnes qui n'étaient pas conformes aux institutions de droit commun et à les placer dans des structures spécialisées pour construire, dans le champ du handicap par exemple, ce qu'on a appelé justement l'éducation spécialisée. Donc ce processus qui porte sur pratiquement un demi-siècle puisque cette logique prend son ampleur après la Seconde Guerre mondiale dans la formation de l'action sociale moderne. On pourrait même dire d'ailleurs qu'elle précède la Seconde Guerre mondiale parce que les lois d'assistance qui sont les ancêtres de notre dispositif actuel d'action sociale, ces lois d'assistance, déjà elles-mêmes, étaient construites dans des logiques par catégorie, puisque si on en fait le tour, on retrouvait les lois qui concernaient l'enfance, qu'à l'époque on appelait moralement abandonnée ou abandonnée, donc c'était la protection de l'enfance. On avait les vieillards impécunieux, c'est ainsi qu'on les appelait, avec donc en fait l'invention d'une politique spécifique pour le troisième âge. Puis on avait cette catégorie, à l'époque c'était les invalides impécunieux, la loi de 1905, qui ensuite a donné lieu à un recodage et une transformation très profonde avec un développement, mais en réalité en se constituant comme un secteur à part entière de l'action publique. Donc on assiste à une transformation assez forte de l'action publique et de l'action sociale en particulier, en passant d'un modèle qui s'est imposé pendant une cinquantaine d'années à un modèle qui se cherche, puisque je pense que ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'il constitue plus une énigme, en quelque sorte. Il accumule des expériences, mais on ne voit pas encore bien les axes de force qu'il pourra revêtir, alors que l'ancien système, évidemment, on le connaît mieux. Cela dit, la période un peu énigmatique et problématique que nous traversons ne doit pas nous étonner puisque, dans une certaine mesure, l'ancien système lui-même a fait l'objet d'une expérimentation assez longue, parce qu'en fait, si on prend les institutions juridiques, ils ne se stabilisent véritablement qu'au moment même, d'ailleurs, où ils commencent à entrer en crise. C'est la loi de 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales qui constitue une sorte de monument juridique. Et vous le savez, elle est adoptée d'ailleurs le même jour que la loi d'orientation relative aux personnes handicapées, qui elle-même constitue, pour le secteur du handicap, certes, mais finalement pour l'ensemble de l'action sociale, une sorte de construction homogène, vous voyez, de monument qui se veut cohérent pour l'action sociale telle qu'on l'avait expérimentée à partir des années 1945-1950. Voilà. Alors, je vais tenter de répondre au défi qui m'a été lancé, à savoir réfléchir à cette fameuse spécificité à l'époque de l'inclusion. Donc, en résumant bien, la spécificité, c'est comment passer d'un modèle, qu'est-ce que signifie plus exactement, parce que quand je dis comment, je laisserai entendre que j'ai des solutions, moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que peut signifier et qu'est-ce qui peut caractériser le passage d'une action sociale de type catégoriel, sectoriel, construite patiemment et inventée par les acteurs dont vous êtes les héritiers ou dont vous faites partie vous-même d'ailleurs, à une action sociale qui se veut autre et dont la thématique de l'inclusion pourrait constituer au fond un peu l'étendard, la notion clé. Alors, je vais le faire en prenant le soin d'apporter, avant de commencer, quelques réserves. D'abord, je vais m'en tenir à des aspects très généraux, donc je peux peut-être éventuellement décevoir certains. Cela tient au fait, d'une part, que je ne suis pas un professionnel d'action sociale, donc je ne le vois que d'un certain point de vue qui est le mien. Je ne suis pas un acteur direct de ces activités. Et puis, d'autre part, mon regard consiste plutôt à monter en généralité. Alors, j'espère que ça croisera vos propres problèmes, mais je n'en suis jamais tout à fait sûr. Je vais m'efforcer de prendre un peu de hauteur, et d'autant plus, d'ailleurs, que les propos qui ont été tenus et qui seront tenus dans les ateliers ont prouvé à l'envi qu'il y a parmi vous, avec tous les intervenants, de multiples personnes, de nombreuses personnes qui ont à cet égard une compétence, des connaissances, etc., que je n'ai pas, et cet après-midi en a d'ailleurs été la preuve. Alors, le fil rouge que nous allons suivre, c'est justement la notion d'inclusion, et je vous propose un parcours en trois étapes, les deux premières risquant d'être un petit peu un travail qui consiste à enfoncer des portes ouvertes, j'espère que non, mais le risque, c'est ça. Et la troisième, essayant de pointer un certain nombre de problèmes. Les deux premières étapes consistent, d'une part, et c'est la première, à mettre en évidence, au fond, ce que j'appelle les diverses facettes de l'inclusion, c'est-à-dire à revenir sur cette notion d'inclusion. Deuxièmement, à se demander comment l'inclusion bouscule les systèmes organisés de l'action sociale, autrement dit, comment l'inclusion constitue un nouveau modèle d'action sociale qui est, à mon sens, très fortement décalé par rapport à la conception qu'on se faisait antérieurement de ces mêmes activités. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Et la troisième partie, je l'ai appelée un peu les défis de l'inclusion, et là on reverra la question plus précisément de la spécificité, bien que nous la verrons aussi dans les deux parties, les défis de l'inclusion, c'est-à-dire essayer de pointer des aspects un peu problématiques de cette transformation, car il en est de toutes les transformations. De la même façon, chaque transformation comporte son lot d'avancées, mais évidemment son lot d'ombres, d'incertitudes et probablement de dangers. Mais le modèle dont nous sortons comportait lui aussi, rassurons-nous et rassurez-vous, son lot de certitudes, de points positifs, mais aussi de dangers, de questions, de points critiques, si vous voulez. Voilà. Alors, tout d'abord, les diverses facettes de l'inclusion. Oui. Alors, je voudrais rappeler, bien que là, véritablement, je risque de faire des redites, peut-être, pour vous, je voudrais rappeler que cette notion d'inclusion est finalement une notion assez récente, qu'elle nous vient, pour l'essentiel, d'ailleurs, de l'Union européenne, car nous avions, nous, en France, dans le même contexte à peu près que celui qui a généré l'inclusion, nous avions, nous, plutôt parlé des politiques dites d'insertion. Et à mon avis, le modèle inclusion rejoint assez fortement, au fond, ce qui se vivait au travers de l'idée d'insertion, qui, comme vous le savez, cette idée d'insertion survient dans une recomposition de l'action sociale qui, au départ, est ponctuelle. Et c'est la recomposition de l'action sociale du fait de ce qu'on a appelé à l'époque, c'est les années 80, la montée de la nouvelle pauvreté, qu'on a appelé aussi l'exclusion sociale, c'est-à-dire des phénomènes sociaux et économiques qui ont bousculé les arrangements du modèle antérieur. En gros, on voyait arriver du côté de l'assistance, si vous voulez, des politiques d'assistance, des populations qui en avaient été antérieurement exclues pour la raison qu'elles faisaient partie du droit commun, du marché du travail, etc. Il s'agissait de gens qui étaient exclus du marché du travail et qu'on ne pouvait pas caser dans le système catégoriel de l'assistance. On ne pouvait pas faire d'un chômeur de longue durée un handicapé, bien qu'on l'ait fait un peu. Mais on ne pouvait pas transformer tous les chômeurs de longue durée en handicapés. On ne pouvait pas donner un statut d'handicapé à tous les jeunes qui ne parvenaient pas à s'insérer sur le marché du travail. Voilà pourquoi on a inventé l'idée et les politiques d'inclusion. L'acte de naissance et la matrice de cette conception, c'est le RMI. C'est l'invention du RMI. Plus tard, l'inclusion survient, dans les années 2000, venue de l'Europe, en recodant nos idées de l'insertion, bien sûr, mais en reprenant quand même un petit peu l'économie générale de ce modèle qu'au départ on avait nommé insertion. Alors cette inclusion, elle revêt, de mon point de vue, trois facettes. Elle nous interpelle à trois niveaux qu'il convient peut-être de distinguer. La première conception ou la première facette de l'inclusion, au fond, c'est la remise en cause des structures d'enfermement. La remise en cause des structures d'enfermement. De ce point de vue, d'ailleurs, l'inclusion, et c'est ce qui est d'ailleurs très fortement porté par les instances européennes. L'idée qu'il n'est plus de mise de prendre en charge des personnes dans des institutions qui prétendent avoir la totalité de la solution et dont la manifestation, je dirais, la plus caractéristique, ça a été, au fond, ce qu'on a appelé dans le modèle antérieur l'établissement, généralement un internat, dans lequel on procédait à ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque des placements. Donc ce modèle est contesté. C'est une contestation qui n'est pas tout à fait nouvelle, parce qu'il faut se rappeler que ça rejoint la critique des bureaucraties, et notamment des technobureaucraties dans les années 60, notamment, par exemple, la critique de la psychiatrie, avec les courants antipsychiatriques, où on avait eu les mêmes mouvements. Il est inacceptable d'assigner des personnes à des institutions fermées qui prétendent les prendre en charge totalement, en les dominant à partir d'une vision légitimée, au fond, par des savoirs techniques, des compétences techniques, qui font naturellement que c'est ce que notaient les critiques dès les années 60, mais c'est tout à fait renouvelé par les critiques que l'on a du côté de l'Union européenne, par exemple, en faisant donc que les personnes prises en charge voient en quelque sorte leur capacité réduite, limitée. On peut même dire qu'il y a une forme d'asservissement des personnes aux logiques institutionnelles, professionnelles, etc., qui les prennent en charge. C'est le premier volet. De mon point de vue, pour l'action sociale, cette forme, cette critique véhiculée par la notion d'inclusion, elle manque un peu sa cible parce que, naturellement, chacun le sait, le caractère enfermant et totalitaire des institutions, ça fait déjà assez longtemps que les choses ont évolué. C'est vrai pour les institutions de l'action sociale, c'est vrai aussi pour les institutions de droit commun. Parce qu'il faut bien voir que les institutions de l'action sociale n'étaient pas plus enfermantes, même si peut-être elles posaient un problème spécifique du fait des fragilités particulières des publics auxquels elles s'adressaient, que les autres institutions de droit commun, par exemple l'école. L'école avait un caractère totalitaire, normatif, si vous voulez, une normativité. La santé, la médecine, les hôpitaux, etc. On sort d'un monde. En réalité, cette critique, c'est au fond la critique des bureaucraties, c'est-à-dire de la conception selon laquelle les problèmes sociaux doivent être remis à des bureaucraties, dont l'État, évidemment, est un des opérateurs centraux, selon un mécanisme qui fait que les besoins sociaux et les individus qui en sont porteurs sont pris en charge par ces bureaucraties de façon définitive, totale, chaque bureaucratie ayant sa mission spécifique et maîtrisant la totalité du problème qui lui est confié. Voilà, en gros, ce que porte la notion d'inclusion. Elle critique le modèle bureaucratique, mais j'insiste, ce modèle avait déjà été très fortement ébranlé dans tous les secteurs de l'action sociale. Pour faire court, le lycée que j'ai connu n'a rien à voir, même si je suis un peu âgé maintenant, n'a rien à voir avec le lycée des années 80, 90 ou 2000. Ça a déjà beaucoup changé. La deuxième conception de l'inclusion, alors qui est assez connue, mais moins évidente, la première, elle est très claire, mais la seconde, c'est l'inclusion, c'est le privilège que l'on doit absolument donner au droit commun. C'est-à-dire que on a une conception de l'action collective et de la position des acteurs, des sujets de droit, si vous voulez, qui veut que la priorité absolue doit être l'accès aux droits communs des personnes. Et les dispositifs dérogatoires qui dérivent les personnes au nom de spécificités qui seraient les leurs, ces processus dérogatoires doivent être, sinon totalement supprimés, en tout état de cause, minorés. Ils ne doivent intervenir que si c'est absolument nécessaire. On le voit dans les textes, par exemple la loi de 1998 de lutte contre les exclusions, c'est ce qu'on appelle l'accès au droit, qui devient un principe fondateur des politiques publiques, notamment des politiques sociales. Il faut faire accéder les gens aux droits communs. Et puis dans l'inclusion, c'est la loi de 2005 sur le handicap, il faut que les personnes entrent dans les organisations de droit commun, c'est-à-dire aient affaire aux services ou aux structures de droit commun en matière d'éducation, de formation, de logement, d'emploi. Voilà le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que, évidemment, l'inclusion attaque les constructions institutionnelles héritées. Donc l'inclusion propose d'introduire une mutation dans le travail institutionnel. Première mutation du côté des personnes prises en charge, c'est l'émergence, alors dans l'action sociale on l'a appelé l'usager, je n'ai pas le temps ici de revenir sur cette question, mais c'est un très mauvais choix que d'avoir appelé ça l'usager, parce que l'usager c'est une notion du droit public français, droit administratif français, qui justement se caractérisait par le fait, dans la conception traditionnelle du service public, que l'usager est en position légale et réglementaire. Autrement dit, son statut d'usager ne dépend pas de lui, il lui est imposé. En gros, c'est ça, l'usager. Or, curieusement, on a appliqué cette notion, alors qu'on entend au contraire faire surgir un sujet de droit dans les institutions collectives, et redonner toute sa place au sujet de droit, c'est-à-dire détruire les rapports dissymétriques entre l'action collective et les personnes prises en charge, et instaurer des rapports symétriques, des rapports égalitaires, j'y reviendrai. Donc ça, c'est la première caractéristique. Les modalités d'organisation institutionnelle dans l'inclusion repositionnent les personnes prises en charge, donc qu'on appelle les usagers, mais c'est aussi le cas des patients, c'est le cas des élèves, c'est le cas des familles, c'est le cas partout. C'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des services publics. Donc, c'est le repositionnement de l'usager et toujours du point de vue des constructions institutionnelles, l'inclusion, évidemment, impacte très directement les organisations, c'est-à-dire les façons de construire l'action collective. Et on pourrait dire en gros, même si l'action sociale excède la notion de service public, on pourrait dire en gros que cette évolution Elle est traduite par le passage du service public au service du public. L'administration française s'est construite sur la notion de service public. Eh bien, voilà que maintenant, l'introduction de l'article service du public change tout à fait la donne. Il faut prendre comme principe de légitimité donc la satisfaction des personnes prises en charge, la réponse aux besoins de ces personnes, l'accompagnement individualisé des personnes, etc. Tout ça, ça a été dit. Il était très clair, évidemment, dans les institutions héritées, que ce n'était pas la ligne d'horizon de l'action collective. De là, mon deuxième point, qui va, d'un certain point de vue, résumer tout ça, c'est que l'inclusion constitue un changement de modèle institutionnel dans l'action sociale. Une transformation du modèle institutionnel de l'action sociale. Je vais aller vite parce que, pour l'essentiel, les caractéristiques les principales de ce changement ont été très largement évoquées cet après-midi. Disons, pour le formaliser un petit peu, je vous propose de revenir à des notions que j'ai moi-même un petit peu bricolées. On passe de ce que j'appelle un modèle réparateur, justement, à ce qu'on doit appeler le modèle inclusion-insertion. Alors revenons, pour bien décalquer, bien décrypter la transformation, à ce qu'était le modèle que moi j'appelle réparateur, c'est-à-dire le modèle qui se met en place à partir des années 50, après la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agit-il ? Le cœur, la notion centrale du modèle réparateur, qui va se forger et apparaître dans les années 60-70, c'est la notion d'inadaptation. Pour comprendre un système institutionnel, il faut essayer toujours de lire derrière le système comment il conçoit le problème. Qu'est-ce que c'est que la notion d'inadaptation ? La notion d'inadaptation, ça consiste à constater une distance de certains individus par rapport aux normes sociales requises pour tenir le choc des institutions sociales de droit commun, par exemple l'école, l'emploi, le logement. Donc on identifie les personnes qui ne tiennent pas les normes sociales, qui sont à distance des normes sociales, on les appelle les inadaptés. Et ces personnes, donc on va les réadapter, mais soyons, en observant la situation, il faut bien le dire, cette réadaptation va se faire par le fait qu'on va les confier à des filières spécialisées de prise en charge, qui sont en principe affectées à la résolution de ces inadaptations. D'ailleurs, vous avez des institutions nombreuses, certaines existent toujours, qui portaient le terme de réadaptation. Par exemple, les CHRS, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était les centres d'hébergement et de réadaptation sociale. C'est l'intitulé. Donc, une distance aux normes sociales requiert le classement des personnes dans des groupes, des catégories d'inadaptés, chaque catégorie d'inadapté renvoyant à une structure institutionnelle spécialisée. Car c'est là la deuxième caractéristique du modèle réparateur. On découpe donc les inadaptations en catégories et, au fond, chaque catégorie est référée à un type d'institution spécialisée pour le prendre en charge. D'où cette logique, vous voyez, catégorielle, verticale, qui a abouti à ce que l'action sociale se configure un peu comme un système en tuyau d'orgue, hein, en quelque sorte avec des institutions qui faisaient, entre guillemets, le tri, c'est-à-dire qui font les diagnostics et qui orientent les diverses personnes vers les catégories dont ils relèvent. Le but de la politique publique consistant, en fait, c'est la loi du 30 juin 1975, à produire une offre de structures adaptées. Cette offre étant définie par les fameuses normes techniques qui nous viennent du décret de 56 dans le champ du handicap et qui d'ailleurs existent toujours au Code de l'action sociale et des familles, puisque dans le Code de l'action sociale et des familles, vous avez toujours par catégorie d'établissement les normes qui sont requises pour constituer chacune de ces catégories. Un IME, c'est répond à telle caractéristique, il a tel type de personnel, etc., etc. Et il en est de même pour un EHPAD, pour toutes les catégories font l'objet d'une réglementation spécifique. L'offre publique doit donc se structurer au regard des personnes ayant été classées dans chacune de ces catégories. Voilà comment le modèle réparateur se constitue. Fondamentalement, et c'est pour ça que je l'appelle le modèle réparateur, ce n'est pas une réparation au sens du garagiste qui répare le moteur, c'est une réparation au sens de la responsabilité, si vous voulez, en quelque sorte, ayant identifié une distance par rapport aux normes sociales, la société se considère comme quitte avec chacune des personnes entrant dans les catégories constituées à partir du moment où elle lui offre, un peu comme le fait la responsabilité, un équivalent fonctionnel de ce qui se passerait si cette personne n'était pas à distance des normes. Donc vous n'êtes pas dans l'éducation de droit commun, vous êtes dans l'éducation spécialisée. On répare les difficultés des individus en les référant à des groupes, et chaque groupe, en quelque sorte, a un statut qui est un équivalent fonctionnel du droit commun, mais qui n'est pas le droit commun. Tout cela, d'ailleurs, étant tout à fait cohérent avec la vision qu'on avait de la société démocratique et de l'égalité citoyenne, d'ailleurs, il faut le dire, car le principe d'égalité qui soutenait ce système, et c'est le Conseil d'État qui l'avait élaboré ainsi, le principe d'égalité consiste à ce qu'on ne traite pas tout le monde de la même façon, mais on offre à chacun un traitement qui soit compatible avec les différences objectives que l'on peut repérer pour chaque catégorie. Une différence objective peut justifier un traitement différencié. Évidemment, la différence est objective parce que on a construit tout ça dans des catégories juridiques et qui, avec des instances officielles qui orientent les personnes et qui, en quelque sorte, soustrait les personnes à leur singularité en les référant à des systèmes institutionnels. Tel est le modèle réparateur. Alors évidemment, le modèle d'inclusion apparaît un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein par rapport à cette vision, parce qu'il la prend très largement à contre-pied. Tout d'abord, ce n'est plus l'inadaptation qui en est le socle, c'est l'exclusion. Et l'exclusion n'est pas envisagée du point de vue des catégories telles qu'on va les reconstruire dans la réglementation, mais elle est envisagée du point de vue de ce qu'on appelle les risques de discrimination ou les discriminations effectives. La valeur cardinale de ce modèle, qui d'ailleurs est promu par le droit européen et qui nous pose à nous Français un certain nombre de problèmes, c'est une recomposition du principe d'égalité à partir d'un autre système de valeurs qui est le principe discrimination, non-discrimination, lutte contre les discriminations. De quoi s'agit-il ? Il s'agit non pas de compenser et de réparer un écart à la norme, mais de permettre à tout le monde de participer à la formation de la norme. Et cette participation doit s'entendre du point de vue des individus eux-mêmes. Naturellement, ils se réfèrent à une catégorie, mais ce sont des catégories qui ne sont pas des catégories juridiques, ce sont des catégories factuelles. Les discriminés, ce sont les homosexuels qui sont discriminés, ce sont les femmes, ce sont les personnes handicapées. C'est-à-dire, on reconstruit la réalité sociale en identifiant des groupes qui se disent, qui se veulent, qui se pensent et qui sont ensuite pensés par la société comme discriminés. Et le but de la politique, c'est en quelque sorte de faire cesser cette discrimination. La discrimination étant essentiellement en réalité le fait de ne pas pouvoir participer à la formation des normes sociales, de ne pas être un acteur. Il y a une autre façon de poser les choses, souvent je le dis aux étudiants, le vieux modèle c'était une société, correspondait à une société de membres, la société d'inclusion c'est une société d'acteurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir jouer son rôle. Et ceux qui ne savent pas jouer leur rôle, il faut leur donner les échafaudages et les appuis pour qu'ils puissent tenir leur rôle. Au passage, évidemment, nous avons une reconfiguration de l'être ensemble de la société démocratique, de la façon de penser la société démocratique. Je me contenterai de dire, évidemment, que ces évolutions, elles correspondent au passage d'une société où, en quelque sorte, la norme est assez fortement définie et il s'agit d'entrer dans la norme, le vieux modèle, celui que j'ai connu quand j'étais jeune, si vous voulez, à un autre modèle, c'est que faire société, c'est justement constater qu'il n'y a pas de normes communes, mais que le seul problème est de participer à la formation collective de la norme, les normes étant changeantes, évolutives. Les normes sont le résultat de l'adaptation permanente des individus, des groupes, etc., qui arrivent à trouver des équilibres entre eux. Les normes ne préexistent pas. Elles sont construites. Autrement dit, on ne peut pas identifier une distance par rapport à une norme qui existerait. Il s'agit de rendre les gens aptes à participer, c'est-à-dire donc à être entendus, à avoir une place, à être reconnus. Et vous retrouvez derrière, évidemment, l'idée d'être reconnu, la philosophie de la reconnaissance, etc. Donc le modèle d'inclusion correspond à une autre façon de penser la collectivité, ce qu'on appelle le vivre ensemble, puisque c'est un néologisme qu'on entend partout. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? C'est en quelque sorte être inclus, c'est faire partie du jeu. C'est pas se conformer. De là, évidemment, on le voit, ça a été dit, donc je vais passer très vite, tout ceci prend à revers les montages institutionnels qui nous étaient légués par le système réparateur, c'est-à-dire en fait le modèle en tuyau d'orgue, le modèle de structure spécialisée, d'administration ou d'institution dédiée, chaque institution ayant sa population cible, etc., etc. On l'a dit, donc je n'insiste pas, ce modèle doit progressivement se recaler, il le fait d'ailleurs, dans des logiques qui sont tout autres, qui sont des logiques réticulaires, réseaux, des logiques de cluster, c'est-à-dire d'une offre de services, de plateforme de services. On l'a évoqué. Les catégories se déconnectent et elles se détruisent parce qu'au fond, on voit surgir des masses de populations interstitielles qui n'entrent plus dans les catégories, ça a été dit aussi. Le handicap sensoriel n'est qu'un élément, la plupart du temps, d'une quantité, d'un certain nombre d'autres déficiences ou handicaps. Donc, les populations interstitielles deviennent la majorité, celles qui sont entre deux chaises, qui n'entrent dans aucun des tuyaux. Donc, du côté des organisations, la logique consiste à construire des ensembles cohérents d'intervention, ce qu'on va appeler les parcours. Et la signification du parcours se joue dans l'articulation entre les éléments, pas dans la juxtaposition des éléments. Et puis du côté des sujets, des personnes prises en charge, bien naturellement, je l'évoquais au départ, mais le modèle d'inclusion suppose de leur donner une place inédite que l'on voit bien dans le modèle d'inclusion apparaître avec les notions de contrat, de projet de vie. Il faut en quelque sorte susciter l'adhésion de la personne à l'ensemble des prises en charge, ce qu'on appelle donc des accompagnements, des suivis, etc., dont il va faire l'objet. Autrement dit, il faut que à la différence de l'ancien système où on procédait par ce que j'appelle les adaptations marginales, si vous voulez, les individus se calaient dans les institutions, le but du jeu étant que les individus comprennent ce que les institutions attendaient d'eux et soient capables de tenir à peu près ce que les institutions attendaient d'eux. Eh bien, le nouveau modèle, c'est pas que les individus s'adaptent au programme de l'institution, c'est que le programme de l'institution soit la résultante des demandes, des attentes, etc., des individus. On a un renversement total du dispositif. Voilà pour cette deuxième partie, passer du modèle réparateur au modèle d'inclusion. Vous le voyez, c'est transformer assez profondément le système hérité. Alors, encore une fois, la transformation est déjà à l'œuvre sous nos yeux. On en a parlé cet après-midi, on la constate partout. Elle sera probablement longue, puisque pour l'instant elle se fait par adaptation du système, donc il faudra du temps. Je ne vois pas tellement de raisons pour douter qu'elle finira finalement progressivement par s'imposer en trouvant des équilibres, des arrangements qui comporteront leur lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Il ne faut pas se leurrer non plus à cet égard. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'était, au fond, quels sont les défis de l'inclusion. Alors naturellement, je viens de l'évoquer, et vous allez en parler, et c'est très important, l'inclusion, le modèle d'inclusion correspondant à une transformation des systèmes hérités, tant du point de vue des professions, de la structuration des professions, ça a été évoqué, qu'à celui des organisations, va supposer des expérimentations, des adaptations constantes des organisations, des transformations qui vont être plus ou moins coûteuses pour les acteurs, qui vont susciter des incompréhensions, des difficultés, qui constituent pour une large part une énigme parce qu'on sait d'où on part mais on ne sait pas où on va, etc. Donc je n'y reviens pas et je ne veux pas du tout minimiser cette dimension-là. Mais je voudrais attirer votre attention sur des points qui me semblent en arrière-fond de ces transformations. Le premier point, évidemment, c'est toute la question, d'ailleurs, de la construction des sociétés que certains appellent post-modernes, que l'on retrouve là, parce qu'encore une fois, ce qui se vit dans l'action sociale se vit partout ailleurs, ce n'est pas tellement original. On a, au fond, un idéal type, si vous voulez, de société individualisée, très fortement individualisée. Je pourrais dire que c'est le triomphe de l'individualisme méthodologique, et pour le dire autrement, c'est la victoire de Tocqueville et c'est l'effondrement de Durkheim. Tocqueville qui voyait la société démocratique comme l'assemblage d'individus atomisés, c'était ça sa vision, alors que naturellement Durkheim nous a plutôt enseigné que les individus n'étaient pas du tout atomisés, mais qu'il y avait au-dessus la société. C'est mon collègue bordelais Dubé qui le dit, la société comme représentation, c'est-à-dire comme capacité à représenter le tout et à le mettre en ordre, elle tente à se vider en quelque sorte de son contenu. Donc il y a un problème fondamental, vous voyez, c'est que à promouvoir une vision individualisée du social, on n'en fait pas disparaître pour autant le fait que nous sommes des animaux sociaux et que le pouvoir, ce que moi j'appelle le pouvoir social, c'est-à-dire le fait que pour vivre ensemble, nous sommes pour vivre ensemble tenus à des normes communes, nous sommes tenus à des ensembles communs. Eh bien, ce pouvoir social ne disparaît pas pour autant. Et pour les individus qu'on prend en charge dans l'action sociale, il ne faudrait pas, en quelque sorte, les entraîner dans cette illusion que choisissant leur projet de vie, choisissant leur parcours, voyant les professionnels se pencher avec intérêt sur leurs demandes, leurs besoins, etc., ils seraient en quelque sorte capables de faire surgir leurs besoins, leurs projets, etc. Vous voyez, sans que tout cela soit lié à la construction collective, au pouvoir social. Autrement dit, dans nos sociétés, la question du pouvoir collectif se pose et il ne disparaît pas, le pouvoir social, mais il se dilue. Faire un contrat avec un bénéficiaire du RSA, c'est en réalité lui demander d'articuler, bien sûr, la projection qu'il fait de lui-même, mais par rapport à des contraintes, par rapport à un espace social. Ce n'est pas une pure projection individuelle de soi-même. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, les plus vieilles philosophies de la liberté des individus nous enseignent que la liberté ne consiste pas à abolir les règles, mais elle consiste à en faire quelque chose. Donc pour les gens de l'action sociale, il y a, me semble-t-il, une réflexion à avoir, c'est comment donner forme au fait qu'on vit en société, que nous ne sommes pas dans l'extraction individuelle de besoins auxquels on pourrait incessamment et toujours répondre, mais que pour se former comme un acteur social, justement, il faut prendre en compte le cadre des contraintes, à commencer naturellement, quand il s'agit de personnes qui ont des difficultés particulières, par le fait que leur situation les contraint, les assigne, leur impose un certain nombre de choses, comme à chacun d'entre nous, mais probablement dans l'action sociale, plus pour les personnes qu'on prend en charge, que pour l'individu qui, en gros, se sort à peu près de la situation dans laquelle il se trouve. Donc il y a une dimension, vous voyez, de construction du pouvoir social qui devient très importante. Comment le construit-on ? C'est dans les contrats, dans les projets de vie. Comment fait-on prendre en compte la dimension collective de l'existence commune ? L'appel à la citoyenneté, etc. C'est un petit peu ça. C'est la remarque très générale. Alors, elle peut paraître très générale, mais à mon avis, et je vais prolonger ainsi, elle se répercute, à deux niveaux qui sont plus concrets, je crois, que ce que je viens de tenter de dire, qui peut apparaître comme un peu éthéré. Du point de vue des sujets, ça en est le prolongement direct, c'est-à-dire des individus pris en charge, le modèle d'inclusion pose le problème de ce que j'appelle la surcharge du sujet, de l'individu. C'est-à-dire que les vieilles institutions du modèle réparateur avaient l'inconvénient de vous assigner à une place, mais elle avait l'avantage de vous offrir cette place, ce statut, etc. Si c'est aux individus à se construire, cette construction se paye, évidemment, de la difficulté de la réaliser, des illusions qu'elle peut comporter, des échecs qu'elle revêt, et elle peut même, dans certains cas, aboutir à une forme de, donc c'est ce que j'appelle la surcharge, c'est-à-dire se lancer dans des logiques purement illusoires dans lesquelles on pourrait faire croire aux individus, aux sujets, que les prenant en charge uniquement à partir de leurs désirs, etc., ben, il leur suffit de les exprimer pour que ça se réalise. Et ça peut aboutir, en quelque sorte, à mettre sur leur dos une part très importante de la responsabilité. On le voit, par exemple, dans les politiques d'insertion vers l'emploi, où le grand problème, c'est est-ce qu'on ne transforme pas les gens qui n'ont pas d'emploi en principaux responsables du fait qu'ils n'en aient pas ? Parce qu'au final, après avoir passé tous les contrats d'insertion, tous les contrats d'adaptation, tout ce que vous voudrez, s'ils n'ont toujours pas d'emploi, quel est le responsable ? Eh bien, par extension, on peut se demander s'il n'y a pas là un enjeu très important. Autrement dit, derrière les sujets, les personnes prises en charge, comment instituer, c'est-à-dire créer de l'institution qui fasse que tout ça ne soit pas des purs artefacts alimentant des illusions. Ça me semble un des problèmes. Très concrètement, par exemple, je connais pas trop bien votre secteur, mais ayant eu l'occasion d'aller dans des camps, c'est ça, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je m'entendais dire, si vous voulez, que par exemple, quand on repère les handicaps, vous avez un problème fondamental, c'est que la famille accepte le handicap. Et évidemment, cette acceptation, avec les conséquences qu'elle comporte, elle est très difficile. Et si vous surchargez les personnes en leur disant qu'au fond, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils n'accepteront que ce qu'ils voudront bien accepter, je pense aux familles, etc., on risque évidemment de les engager dans des voies qui sont totalement illusoires, dangereuses et qui peuvent aboutir à des effets totalement négatifs pour les enfants en question. Donc là, en réalité, quand vous êtes dans un camp, c'est que vous avez des parents et vous essayez de les convaincre que leur enfant est handicapé, vous êtes dans l'articulation entre le sujet et le pouvoir social. Comment les deux s'équilibrent ? Il y a 30 ou 40 ans, les parents ne discutaient pas. De la même façon que quand les enfants redoublaient à l'école, ils ne discutaient pas. Quand on les virait de l'école, ils ne discutaient pas. Maintenant, ils discutent. Mais s'ils discutent, alors, en même temps, l'école doit bien dire quelque chose de ce qu'elle peut faire, ne pas faire, etc. Donc ça, c'est un premier niveau de difficulté du nouveau dispositif, me semble-t-il. Le deuxième niveau, c'est dans les organisations elles-mêmes. Tout à l'heure, l'un des intervenants de la deuxième table ronde, je crois, il disait qu'il réfléchissait à la notion de dispositif. Voyez. Alors, je mets moi toujours en garde en disant que les dispositifs peuvent tuer les institutions. Premièrement, parce que les dispositifs peuvent diluer les responsabilités des acteurs et faire qu'on a aménagé des passerelles entre les structures, les acteurs, etc. Mais finalement, plus personne n'est responsable. Et ça, c'est un effet concrètement qui m'a été signalé. Donc, premier effet. Mais plus fondamentalement, le dispositif, c'est-à-dire un arrangement souple, fluide, adaptable constamment d'opérateurs, pose la question de savoir qui définit ce qui est fondamental dans une institution, c'est-à-dire le programme de l'institution, son sens, ce qu'elle peut faire, ne pas faire, ce pourquoi elle est faite. Et les sujets ne peuvent se construire que si les institutions disent quelque chose d'elles-mêmes. Donc dans ces pratiques, vous voyez, il y a, vous voyez, ça ramène à cette idée générale de la reconfiguration des rapports entre le sujet, chacun d'entre nous, et la collectivité. Dans ces reconfigurations-là, il faut, si je résume, que les sujets puissent se constituer comme sujets. Et pour se constituer comme sujet, il faut avoir quelque chose en face. Il faut avoir des structures, des institutions, etc. Et les institutions elles-mêmes qui peuvent se déliter, se diluer, en rendant, certes, le pouvoir institutionnel évanescent, mais le pouvoir institutionnel évanescent, ça pose problème. Qui est responsable du parcours ? Alors, on le disait un peu ce matin tout à l'heure, finalement. Qui est responsable du parcours ? Qui est responsable du projet de vie ? Qui en est le garant ? Dans l'ensemble des opérateurs, qui porte la responsabilité de la cohérence d'ensemble et du sens ? Qui est le garant du sens, de la signification que l'on peut donner à tel ou tel type d'accompagnement, tel ou tel type de prise en charge ? Voilà, naturellement, vous l'avez constaté, ces quelques remarques ont un caractère très général. Elles peuvent vous apparaître très, très, très éloignées de vos pratiques. J'ai pris la précaution de vous expliquer que les pratiques, on en avait parlé. Vous allez encore en reparler. J'espère simplement les avoir éclairées, en quelque sorte, d'un jour qui leur permette et qui permette de regrouper un peu les problématiques et de leur donner une dimension un peu plus générale. De façon, c'est l'objectif, à les rendre plus appréhendable. Voilà, je vous remercie et je suis ouvert aux questions. Oui, j'ai dépassé. Ouais. S'il n'y en a pas, c'est peut-être mieux alors. Oui. Bon. Merci.